Nathalie Arthaud, qu'est-ce que vous retenez de l'intervention de Nicolas Sarkozy? Il parle plus de lui ou de Georges Pompidou, finalement, à travers cet hommage?
Bon, ben là, j'ai écouté deux minutes avant d'arriver sur le plateau. J'ai eu l'impression que c'était l'hommage de Sarkozy à Sarkozy, voilà. Bon, maintenant, honnêtement, je ne sais pas... de quoi il faut parler là, enfin, est-ce qu'il faut parler de Pompidou, est-ce qu'il faut parler de Sarkozy?
Des deux.
Alors voilà, aucun des deux ne m'intéresse parce que je pense qu'on est loin, très très loin des problèmes actuels des travailleurs, du monde ouvrier. Je pense que Pompidou comme Sarkozy étaient les représentants patentés de la bourgeoisie. C'est pas du tout mon monde. Voilà, moi j'ai rien de plus à
dire. Plus 10% pour les salaires, plus 35% pour les
sous. Non.
Allez, je reprends les chiffres.
Plus 10% pour les salaires avec qui sous Sarkozy.
Accord de Grenelle. Pompidou.
Ah non, mais attendez, les accords de Grenelle. Mais discutons-en des accords de Grenelle. Ah là, d'accord, ça m'intéresse. Mais parce que précisément, ces accords de Grenelle, ils ont été arrachés par une grève ouvrière, une des plus grandes grèves générales que la France ait connue. D'accord, si on rattache les années Pompidou à ce mouvement de mai 68, ça me parle davantage. Oui. Voilà. Mais je ne crois pas que c'était le thème de Sarkozy, là.
Nathalie Arthaud, on a du mal à tourner certaines pages en France.
Pas moi en l'occurrence, voilà. Ouais. Je ne suis pas du tout nostalgique
de Sarkozy,
ni de Hollande d'ailleurs. Non, mais moi ce qui me frappe, c'est qu'y compris sur le plateau, tout le monde cherche finalement le grand homme politique ou la femme politique.
C'est notre système qui veut ça.
Va surgir et va... faire table rase, vous avez dit, monsieur, vous pouvez faire table rase. Je crois absolument pas à ça. Moi, je pense que ceux qui peuvent faire table rase de la société, si les travailleurs veulent changer leur sort, parce que moi, c'est mon camp, pense que ça dépendra d'eux et pas de ces hommes et de ces femmes politiques qu'on érige toujours en héros, en figures, fantastiques, sur lesquelles il faut forcément, fantasmer. Enfin, voilà. Regardez ce qui s'est passé dernièrement dans l'actualité, y compris les Gilets jaunes, comment leur force collective, l'irruption de centaines de milliers de femmes et d'hommes dans la vie politique a tordu le bras au gouvernement. On discutait il y a 5 minutes de cela de Grenelle, des accords de Grenelle. C'était des millions de femmes et d'hommes qui étaient dans la rue. Moi, je crois que c'est ça qui fait l'histoire. C'est effectivement les masses ouvrières conscientes de leurs intérêts. En tout cas, moi, je milite dans cette perspective.
A priori, Nicolas Sarkozy devrait publier la semaine prochaine un livre qui s'intitulerait Passion avec un S.
On est dans l'humanité, en fait.
Exactement.
Moi, je pense que c'est précisément la politique que rejette l'écrasante majorité de la population.
Pourquoi?
Voilà, les classes populaires. Mais parce que c'est une petite vie politicienne qui tourne en boucle, qui s'alimente elle-même et qui est complètement déconnectée, des problèmes quotidiens de la grande majorité. Voilà, donc, c'est aussi ça.
Mais la France, c'est aussi une culture, c'est aussi une histoire.
Quand aujourd'hui,
c'est aussi
il y a des millions de femmes et d'hommes qui disent on n'a rien à attendre de ces gens-là, on n'a rien à attendre des élections, ça ne les intéresse pas, nos problèmes quotidiens. Là, il y a une réforme contre les chômeurs, il va y avoir une réforme contre les retraites, il y a un recul des conditions de vie, les urgences sont en train d'exploser, tous ces problèmes quotidiens qui préoccupent aujourd'hui des millions de femmes et d'hommes, eh bien tout ça, ça fait... Voilà, c'est un sujet parmi 10 autres, dont 8 concernent Nicolas Sarkozy,
Hollande, la radicalisation.
François Hollande,
par exemple,
on pourrait passer temps à ne discuter que des affaires de cœur, de Hollande, de Ségolène Royal, comment Mitterrand, etc. Bon, mais voilà, encore une fois, c'est déconnecté des problèmes.
Vous êtes sûr qu'elle ne passionne pas du tout les Français?
Ah, mais moi, je suis
ces ouvrages, en tout cas,
c'est pas ce qu'ils attendent aujourd'hui, effectivement, de ceux qui sont en responsabilité. Que ce soit dans le monde politique ou dans les grandes entreprises, évidemment.
Brigitte Macron semble monter en puissance, plutôt discrète lors de la crise des Gilets jaunes. La première dame multiplie les sorties à 9 mois des municipales.
Macron a un atout pour notre pays.
Ça, c'est la grosse ficelle politicienne. Bien sûr que c'est préparé, c'est pensé, c'est mis en scène, évidemment.
Vous parlez d'interview, là ?
Mais oui, bien sûr. Et d'ailleurs, on peut faire le rapprochement avec les mots de Nicolas Sarkozy, puisque Nicolas Sarkozy expliquait que la politique, c'était les sentiments, les passions, l'humanité.
Oui.
Mais c'est la même ficelle. Pourquoi ? Précisément parce que ça peut fonctionner électoralement, ça peut être payant. Qui est contre l'humanité ? Qui est contre les sentiments ? L'amour, c'est tellement beau tout ça.
Mais moi, avec un peu d'ironie.
Mais bien sûr, mais moi je pense que ce n'est pas parce qu'elle a repris le flambeau des pièces jaunes qu'elle va faire passer la politique de son mari pour une politique sociale. Voilà, c'est une politique anti-ouvrière du début jusqu'à la fin. Voilà. Il s'est attaqué, encore une fois, au Code du travail. Il a commencé par ça, avec les ordonnances de travail. Ensuite, il s'est attaqué... et là, maintenant, voilà, il est sur l'assurance chômage. Il est sur l'assurance chômage, oui, il oui. est sur les retraites. Donc, c'est des attaques en rafale que le monde du travail est en train de subir. On voit, par ailleurs, tous ces licenciements. Moi, demain, je serai à Belfort. Il y a une manifestation contre les licenciements de General Electric à Belfort. Parce que, là encore, on voit aussi des grands groupes qui sont riches à milliards, qui décident comme ça de supprimer, de licencier 1000 personnes par-ci, 1000 personnes par-ça, alors qu'ils sont richissimes. Et le gouvernement laisse faire, finalement, comme il a laissé faire pour Ford, etc. Donc, il y a toutes ces attaques-là. Et moi, je ne crois pas que, effectivement, les interventions de Brigitte Macron vont masquer tout ça. Non, je ne crois défend, pas. Hein. La ficelle mais est grosse.
Dans l'assurance chômage, il y a des conditions de plus drastique pour intégrer l'indemnisation. Il va falloir travailler 6 mois sur les 24 derniers mois. Ça, c'est pas une manipulation statistique pour faire baisser techniquement les chiffres du chômage.
Pas du tout. Je pense qu'il ne faut pas s'en prendre aux chômeurs. Nous avons une réforme qui est...
Oui, là, ils vont devoir travailler.
Bravo.
Ils vont devoir travailler deux fois plus longtemps.
Je pense qu'il ne faut pas s'en prendre aux chômeurs d'un point de vue moral. Il faut faire une réforme équilibrée. Il faut faire une réforme à la fois équilibrée. Donc, équilibrée. À la fois... qui accompagne davantage les chômeurs, et nous allons recruter plus de 1000 personnes à Pôle emploi pour les accompagner davantage. Et nous
c'est
allons...
S'il
vous plaît, vous m'interrompez incessamment, je n'ai jamais interrompu personne. Oh. Jamais personne dans cette émission. Donc nous allons recruter 1000 personnes à Pôle emploi pour accompagner les chômeurs. Nous allons également indemniser les démissionnaires. C'est la première fois, c'est un vrai
sous
changement.
Conditions.
Oui. Sous conditions, oui, mais pas c'est une réforme structurelle importante. Et nous allons améliorer également la situation pour les indépendants. C'est très important. Et en même temps, pour que le système soit plus efficace, nous allons inciter tout le monde à trouver du travail parce que nous assumons ça. Nous assumons que le travail doit toujours payer plus que le chômage.
Thalia Arthaud, c'est une baisse du chômage en trompe-l'œil ?
Évidemment, c'est une baisse dans les statistiques. Non. Mais ce n'est pas parce qu'on a multiplié les petits boulots de rien du tout que les 6 millions de femmes et d'hommes qui cherchent un emploi en ont trouvé un, vraiment, un vrai emploi, avec un vrai salaire. Et juste pour dire, ce n'est pas la méthode de Macron de transformer les chômeurs en travailleurs pauvres. Parce que, précisément, c'est ce qui a été fait en Allemagne, ce qui a été fait en Grande-Bretagne, de partout. C'est la politique, effectivement, du grand patronat, de disposer d'un volant de main-d'œuvre avec des gens qui sont des bouche-trous, des pions, etc.
Pour le coup, dans la réforme de l'assurance chômage, les cadres aussi sont visés.
Cette réforme de l'assurance chômage, je voudrais quand même justement partir de cette conclusion. Vous vouliez inciter les chômeurs. Mais moi, je trouve
ça... le système plus efficace.
Vous avez terminé en expliquant que votre réforme consistait à inciter les chômeurs à reprendre un emploi.
Tout le monde a travaillé.
Ce qui signifie que vous êtes en train d'accuser les chômeurs de ne pas vouloir travailler. Or, c'est exactement l'inverse qui se passe. Et que faites-vous ? Que faites-vous pour contrôler où va l'argent du CICE que vous versez à toutes les entreprises ? Il y en a quand même pour 40 milliards en 2019 et pour mesurer le nombre d'emplois. Parce que ces grandes entreprises, il faut toujours...
Ça a été efficace.
On leur donne l'argent et puis on ne contrôle rien du tout. Mais c'est efficace de quoi ? La
Poste, qui
touche un CICE de plusieurs...
Ça a été efficace
plus
pour
de 100 millions de CICE. Ils suppriment 4 000 emplois. Tous les grands groupes qui touchent le CICE suppriment des emplois aujourd'hui. Sanofi a annoncé les suppressions d'emplois alors qu'ils sont à 10 milliards de bénéfices par an, Sanofi, PSA...
La grande distribution.
Et General Electric rachète effectivement, Alstom s'engage sur 1000 emplois, une création de 1000 emplois. Hein, le gouvernement et Macron, en l'occurrence, dit banco, etc. Aujourd'hui, ils annoncent les suppressions d'emplois. Et là, on ne leur demande rien. Les responsables de notre vie économique, des grandes entreprises, vous ne leur demandez rien.
N'opposez pas les Français entre eux.
Et ce sont eux qui sont responsables.
Vous opposez sans cesse les entreprises aux travailleurs.
Encore un élément.
On a besoin des deux.
Puis-je terminer parce que je vous écoute attentivement sans vous interrompre. Vous ne demandez rien à cela. À cela, hein, c'est de l'argent, voilà. En veux-tu, en voilà. Par contre, ce sont les chômeurs qui, eux, subissent la situation que vous allez contrôler, que vous allez culpabiliser, que vous allez rendre aux responsables. Eh bien, ça, c'est révoltant. Et moi, j'espère que cette réforme-là, oui, elle aura une opposition dans la rue. Parce que c'est pas d'ailleurs seulement les chômeurs qui sont attaqués. C'est les travailleurs d'aujourd'hui, parce qu'on est tous des chômeurs en puissance, en réalité.
À 9 mois des municipales, Paris est-elle une forteresse imprenable pour La République En Marche ? Au vu des résultats aux européennes, où la majorité présidentielle a réalisé de très bons scores dans la capitale, et de notre dernière enquête pour LCI, tous les espoirs sont permis. Notre sondage BVA pour la tribune Orange RTL est riche d'enseignements. Regardez bien, La République En Marche arriverait en tête des intentions de vote entre 22 à 25% selon les candidats, avec 1 à 4 points d'avance sur la liste conduite par la maire sortante à 21%.
Nathalie Arthaud, comment vous observez cette bataille de Paris qui se profile?
Non, mais de très loin. Et puis, c'est vrai que c'est dans 9 mois, c'est municipal. Et ce que je veux dire, c'est que, y compris ce sondage-là, à 9 mois, donnant LREM en tête, ne dit rien, mais absolument rien, de l'adhésion ou pas des classes populaires à la politique de Macron. Parce que là, on parle effectivement d'une ville quand même prospère, qui est un concentré quand même de gens qui ont de l'argent. Qui ont de l'argent,
pas forcément représentatif de l'argent, c'est ça que vous voulez
dire. Et ce n'est pas du tout représentatif de la France.
Du 20e,
il y a quelques quartiers populaires, mais force est de constater que, y compris aujourd'hui, quand on est enseignant, par exemple, je peux vous dire, j'ai des collègues, je travaille à Aubervilliers, et mes collègues ont du mal. Je peux vous dire, à rester logé sur Paris. Parce que même avec un salaire d'enseignant, aujourd'hui, il faut aller chercher en banlieue. Donc effectivement, la grande majorité des salariés en réalité est sortie de Paris. C'est ça. Et ce que je peux vous dire, moi, c'est que dans les classes populaires, dans le monde ouvrier, eh bien Macron, il est détesté. Voilà, il est rejeté, il est haï. Littéralement, parce que toute sa politique, elle a consisté effectivement à taper sur les travailleurs.
Donc,
mais oui, mais c'est
ça. Tout ce qui est excessif est insignifiant.
Et c'est ce qui s'est vu aussi d'ailleurs aux européennes. C'est ce qui s'est vu dans le mouvement des Gilets jaunes, mais c'est ce qui a été confirmé aussi dans les élections européennes. Et avec la politique que vous continuez de mener, ça risque effectivement pas de s'arranger.
On a fait plus de voix aux européennes que vous, quand même, etc. On peut pas dire que.
Oui, mais ça reflète pas du tout la même chose.
On peut pas dire que le score traduise un désaveu de la politique.
Ah là, très clairement.
Vous êtes arrivé numéro 2 quand même.